Dans les points qu'on proposait d'aborder, il y avait le premier qui revenait très très souvent, c'est comment arriver à impulser de la collaboration en système contraint. Donc ça c'est un des premiers points. Deuxième, donc ça c'est vraiment un point archi prioritaire qui revient très très souvent. Deuxième chose, c'est éventuellement des trucs astuces pour élaborer des cartes de territoire de projet. Donc ça c'est une demande qui revient à quelques reprises. Comment développer des argumentaires autour de la notion de bien commun et dire ben, comment cette notion de bien commun arriver à le faire passer auprès des personnes avec lesquelles on travaille. Éventuellement des bonnes raisons pour ne pas enfin pour ne pas coopérer et donc repérer les arguments les plus couramment opposés pour pouvoir les démonter voire même les recevoir. Éventuellement la notion de légitimité, donc propriété individuelle, propriété collective. Et enfin, un petit nouveau, c'est est-ce qu'on peut imaginer une planification de la progression vers la coopération? Et donc, il y a des gens qui disaient, est-ce que par rapport aux 12 facettes, est-ce qu'il y a une progression logique entre ces 12 facettes? Donc voilà, ça fait beaucoup de points. Je propose qu'on se concentre de toute manière sur le point qui nous intéresse le plus, donc comment impulser la coopération en système contraint, qui à mon avis reprendra d'autres éléments. Peut-être pour commencer ça, est-ce que des personnes qui se trouvent en système contraint, bonjour Pascal, peuvent éventuellement relater, expliquer ben, en quoi ils subissent justement ces contraintes, afin que ben, du coup Jean-Michel puisse peut-être plus facilement imaginer des solutions ou partager des réflexions avec nous.
Du coup, je m'empresse pour le système contraint. Donc, dans le cadre du projet, on est en partenariat avec le CG. Et effectivement, rien que les délais de validation d'étapes et d'avancées et de graphismes et de rédactionnels sont très longs et donc sont déjà un frein à la rapidité d'exécution, si à chaque fois faut faire trois allers-retours pour chaque virgule ou chaque faute d'orthographe, c'est vite laborieux.
Oui, alors pour ce qui me concerne, le système contraint se trouve plutôt du côté des dirigeants de la structure dans laquelle je suis, qui sont des personnes, je dirais, qui arrivent avec une très forte envie de faire, une très forte dynamique, mais qui sont très très méfiants dès qu'on leur parle de coopération. On est face à des administrateurs qui ont une habitude de fonctionnement assez pyramidale, assez beaucoup dans le contrôle, effectivement, et puis qui en même temps expriment une certaine crainte vis-à-vis des TIC. D'abord dans l'idée que ça ne peut s'adresser qu'à des personnes fortement initiées et d'autre part que ça casse complètement les relations humaines et que ça favorise le virtuel là où on a besoin de présence et de lien social. Ça, c'est le grand argumentaire. Et alors quand on aborde après l'idée que les données pourraient être mises à la disposition de tout le monde et que les espaces pourraient être fortement ouverts à la collaboration de tous sur un territoire, par exemple. Alors là, c'est la peur panique. La peur panique que des réseaux ennemis, entre guillemets, ou que des gens animés par des visées politiques s'emparent de cet espace pour en faire une tribune et donc le dévier complètement de son objectif de départ. Voilà.
Oui, ben moi ça rejoint le dernier point de Bertrand, en fait, c'est l'aspect confidentialité des données, le risque que ça comporte. À partir du moment où il y a des administrations qui sont dans le réseau, elles considèrent que leurs informations sont totalement confidentielles et que les partager revient à ouvrir un risque. Et puis ils sont reliés dans cette perception-là, généralement par tout leur système informatique qui ressemble généralement à un bunker et qui n'accepte absolument pas toute intrusion de l'extérieur et toute ouverture en tout cas vers l'extérieur, ce qui oblige du coup à développer des plateformes sur des choses, bah, pour le coup, qui sont effectivement peut-être moins sécurisées et avec tous les problèmes d'accès que ça leur pose.
D'accord, je vais essayer de donner quelques éléments par rapport à tout ce que vous m'avez donné. N'hésitez pas à n'importe quel moment à lever votre petite main, là, la petite 1, 2, 3, comme parce qu'on peut faire ça de façon assez interactive, mais on est en plein cœur d'un des sujets les plus importants de la coopération, c'est comment ça se place par rapport aux autres et qu'est-ce que ça change au niveau culturel, quels sont les arguments, etc. Ce que je vous propose, c'est de regarder ça en trois éléments. Le premier, c'est de bien comprendre quelle est la différence entre l'approche classique, que je vais appeler planifiée, on en a déjà parlé, rappelez-vous, et l'approche coopérative. La deuxième, c'est quelques éléments d'arguments. Je vais reprendre des éléments que vous avez dit et je vais vous donner quelques éléments d'arguments au moins pour montrer que leur réponse n'est pas si évidente que ça. Et troisièmement, quelques éléments aussi de coopération qui permettent de faire de la coopération, même quand on a des contraintes en particulier d'attente de temps et de choses comme ça qui est un peu particulier. Alors, tout d'abord, le truc qui m'a le plus effrayé, puisqu'on parlait de peur, c'est que lorsque j'ai fait le bouquin sur la coopération, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des choses effectivement assez différentes, des approches planifiées, classiques que l'on connaît depuis 3 siècles, hein, et puis encore mieux depuis Taylor. Et en fait, j'étais complètement effrayé de voir que c'était pas du tout le cas, mais que c'était exactement l'opposé. C'est-à-dire que là où il fallait gérer des contraintes, et ben on gère des opportunités. Là où on prévoyait, ben on prévoit plus. Là où on faisait les choses a priori, on les fait a posteriori. Bref, tout est opposé. Et de ce point de vue-là, eh bien, je vous avais donné quelques exemples de termes extrêmement péjoratifs de ce qu'il faut faire sur la coopération. Il faut être opportuniste. Enfin, en gros, il faut gérer des opportunités. Il faut être, comment dire, sur une logique de, faut être feignant. Enfin, il faut savoir déléguer, etc. Alors, en fait, le vrai problème, c'est quand on a la confrontation avec les deux, parce qu'effectivement, on voit que c'est une logique ou une autre, on peut basculer l'un ou l'autre. Alors, il y a deux cas de figure, on est dans les deux. C'est premièrement quand on a des gens qui ont une culture de la planification et qui se retrouvent dans un projet coopératif, donc c'est un certain nombre de cas que vous dites, et deuxièmement, c'est lorsqu'on a les besoins des deux en même temps. Exemple, par exemple, quand on fait de la coopération avec, en particulier, aussi des collectivités territoriales. Alors, sur ce deuxième point, déjà, c'était, alors je sais plus si je vous ai raconté ma petite histoire de l'échange que j'ai eu avec Michel Serres. J'espère que je radote pas et que je répète pas une deuxième fois, mais c'est pour moi et ça a été vraiment une révélation parce que j'ai essayé de comprendre comment on pouvait effectivement gérer à la fois deux choses, enfin être aussi schizophrène, parce que là je suis en train de vous demander d'être schizophrène, pour arriver à réfléchir en coopération et en comment dire en planification en même temps. Et donc j'ai eu la chance de discuter avec Michel Serres de ça lors d'une conférence qu'on avait ensemble à Helsinki. Pour nous remercier, nous avait offert l'ambassade de France à Helsinki nous avait offert un petit voyage en bateau jusqu'à Tallinn. Alors imaginez passer un samedi à philosopher avec Michel Serres sur un bateau à Tallinn, ça se refuse pas. Et surtout, en fait, il m'a dit en 2 minutes, il m'a trouvé une solution que je trouve absolument admirable. Il me dit, bah, c'est très simple. Moi, je suis un ancien marin gascon. Et sur un bateau, eh bien, il y a toujours deux chefs. Vous savez exactement ce qu'on nous interdit de faire. Normalement, il faut avoir un seul chef. Eh bien, il y en a deux. Il y en a un qui récompense, un qui punit. Le chef de quart, le chef de pont. Alors, imaginez que vous fassiez quelque chose qui est absolument interdit, que grâce à ça, vous sauvez le bateau. Parce qu'il y a des contraintes quand même aussi, effectivement, sur l'eau. Il faut simplement pas que le bateau y coule. Alors, si jamais, parce que vous avez fait quelque chose d'interdit, que vous avez sauvé le bateau grâce à ça, je vous récompense pas, la prochaine fois, vous le ferez pas. Et donc, le bateau y coule. Si jamais je vous punis pas, tout le monde va faire n'importe quoi, le bateau y coule. Donc je me retrouve dans une situation absolument incroyable. Il faut que à la fois je récompense et je punis. Et la solution pour arriver à être aussi schizophrène, c'est d'avoir deux choses totalement différentes. Alors qu'est-ce qu'on observe dans les entreprises et dans les collectivités? On observe que d'abord, il y a une sorte de double structure, soit un peu en matrice, c'est-à-dire vous avez des structures très hiérarchiques, vous avez dans, voilà, vous avez des gens qui sont dans une hiérarchie, etc. Et puis après, on va faire coopérer de façon transversale, comme on dit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va avoir quelque chose de plus horizontal, éventuellement d'ailleurs entre des collectivités et entre des tas de personnes. Donc on va voir ça, ou alors dans une entreprise, en fait c'est encore plus déguisé d'ailleurs, parce que si vous regardez bien les grandes entreprises, eh bien vous avez deux chefs, il y en a un qui s'appelle le chef et l'autre qui s'appelle le sous-chef. Le sous-chef, bah, c'est, son rôle c'est de gueuler, hein, c'est le contremaître, c'est le gars qui va tout le temps râler et puis en expliquant et en punissant, en gros c'est celui qui punit. Et puis le chef, en général il se récompense, il préfère récompenser, il préfère donner les médailles, etc. Donc on a toujours ces doubles structures là. La seule chose effectivement, donc c'est que c'est donc très bien qu'il y ait à la fois une structure hiérarchique pour gérer les contraintes dans une collectivité, et que là votre projet, lui, n'est pas là pour gérer des contraintes, il est là pour gérer des opportunités. Et la structure même de ce que les collectivités ont mis en place n'est pas du tout adaptée pour gérer les opportunités, mais plutôt pour gérer les contraintes. Donc on a besoin des deux. Donc surtout, première chose à retenir, il faut surtout pas que ça soit une compétition entre les deux. On a absolument besoin des deux, donc soyons schizophrènes. On a besoin de gérer des contraintes, mais une collectivité qui gère des contraintes, c'est son métier, mais si elle gère plus d'opportunités au 21e siècle, eh bien elle est morte. Donc en fait, elle est obligée de faire deux choses assez distinctes. Alors, quelques arguments quand même par rapport aux choses que vous avez dit. Premièrement, c'est trop compliqué, personne n'y arrive. Ça tombe bien, je venais de faire un flash meeting avec des chômeurs du Mali. Donc il n'y a que les personnes qui sont pas chômeuses en France sont donc dans une situation de beaucoup plus complexe que le chômeur du Mali, que les chômeurs du Mali qui eux ne connaissent pas l'informatique et qui pourtant font des flash meetings avec moi. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que si c'est trop compliqué pour les Français, c'est pas grave, on fera la coopération qu'en Afrique. Donc tout ça pour dire que c'est pas si compliqué que ça. Deuxième chose aussi, ça défavorise le lien social. Alors là, toutes les études, je dis bien toutes les études de sociologues montrent que c'est très exactement l'inverse. Alors pour les histoires de vieux schnocks, un peu comme qui ont nos âges, enfin mon âge par exemple, effectivement, il y a des gens qui utilisent l'internet pour remplacer les moments où on communique ensemble. Maintenant, toutes les études, en particulier des gens plus jeunes, montrent que les plus jeunes utilisent Internet non pas pour remplacer les moments où on se voit, mais pour remplacer les moments où on se voit pas. Si vous avez des enfants qui ont déjà un certain âge, eh bien ils se voient toute la journée et le soir ils rentrent chez eux, ils chatent ou ils se téléphonent pour remplacer le moment où ils se voient plus, pour se voir quand même d'une certaine manière. Là, on n'a pas remplacé une réunion où on se voit, c'est que simplement si on n'avait pas eu ça, moi je serais peut-être pas venu encore une deuxième fois à Montpellier, et donc on serait pas vu. Donc on remplace par flash meeting un moment où on se voit. On se voit pas, pardon. Et donc ça veut dire que l'observation de tous les sociologues, et j'insiste bien tous les sociologues, c'est que les personnes qui sont les plus connectées sont celles qui ont une vie sociale la plus développée. Alors ça peut sembler étonnant, ça peut sembler contre-intuitif pour un certain nombre de personnes, mais c'est un fait. Et donc, c'est pas parce qu'il y a des cas pathologiques, effectivement, de quelques geeks paumés derrière leurs jeux vidéo, etc., qui ont des problèmes, mais on a aussi des gens qui savent pas communiquer dans la rue, c'est vrai, hein, il y a des problèmes comme ça. Mais réellement, quelqu'un qui utilise Internet, c'est quelqu'un qui a une vie sociale. C'est absolument très très clair. Alors en fait, quelle est la vraie difficulté? La vraie difficulté, c'est, rappelez-vous le petit schéma qu'on avait fait quand on était ensemble, je vous ai dit la planification, c'est gérer les problèmes de rareté par la prévision. Alors je vais le mettre juste dans le chat pour qu'on se rappelle bien et qu'on va bien voir là, comme ça les problèmes de rareté, on va essayer de les traiter par prévoir. Hein? Donc en gros, c'est ce que fait une administration qui va gérer des plans quinquennaux, même éventuellement, qui va tout planifier, qui va tout prévoir, qui va faire des appels d'offres pour savoir exactement comment la personne qui répond à cet appel d'offres va faire. Et puis, nous faisons quelque chose d'autre, nous avons un monde imprévisible, notre problème c'est l'imprévisibilité, et nous gérons par l'abondance. Donc en fait, l'abondance de choix, en fait. Donc ça veut dire qu'effectivement on va choisir a posteriori parce qu'on va essayer plusieurs choses. Alors ça veut dire qu'on a deux problèmes qui sont deux problèmes culturels. Si je discute avec des gens de société, l'abondance ils comprennent pas du tout. l'imprévisibilité, ils comprennent, parce que l'économie est basée aussi sur l'imprévisibilité. Et donc, en gros, quelqu'un d'économie, dans l'économie, il va parler de rareté et d'imprévisibilité. Quelqu'un de, dans une collectivité territoriale va parler au contraire de rareté et de prévision. Et donc, on a deux problèmes à traiter. C'est l'abondance, ça fait très peur, et l'imprévisibilité, et là, ça fait très très peur aussi. Donc, c'était deux choses-là, mais peut-être Thomas, avant, tu veux dire quelque chose ?
C'est juste, effectivement, par rapport à l'abondance, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, qui me, d'une part m'effraie, d'autre part me fait doucement rire. C'est l'abondance, ok, mais du coup, ça fait travailler pour rien. Bon, effectivement, personnellement, je suis pas d'accord, mais effectivement, si on veut établir une situation d'abondance, il faut que... Il faut la produire, même si c'est pas forcément super adroit comme terme. Du coup, voilà. Quoi répondre à ce truc de dire, mais on va pas travailler pour faire plein de trucs et qu'après on choisit. Voilà.
Alors, en fait, on va prendre les deux séparément parce qu'effectivement, on a deux problèmes culturels à faire passer. C'est celui de l'abondance. Et effectivement, l'argument que tu donnes, c'est typiquement le type d'argument qu'on va avoir. Et l'argument de l'imprévisibilité, qui génère la peur. Puisqu'en fait, en général, la peur est générée par, je sais pas ce qui va se passer et j'ai peur. Donc, l'abondance d'abord, on va commencer par là. Nous, on dit, voilà, il faut pas gâcher. Donc, toute notre culture d'ingénieur a été d'optimiser. Premier argument, regardons des gens qui sont un peu plus anciens que nous, c'est-à-dire encore plus anciens que les êtres humains, regardons la nature, l'entreprise Dieu Père et Fils, si vous me passez l'expression, et eux, ils optimisent pas du tout. Au contraire, il y a une vraie diversité. Je sais plus si je vous avais présenté la courbe de Ulanovitch lorsqu'on s'était vu. C'est un gars qui travaille en biologie et qui s'est intéressé à la différence entre optimiser les choses. Donc l'efficience, là, comme on dit, faire les bonnes choses, etc. Et puis la diversité. Alors, il a regardé, imaginez que d'abord j'essaie de faire la chose la plus optimisée possible, je ne vais pas gâcher. Donc pour être sûr que, par exemple, alors je vais prendre des grains de blé dans un premier temps, imaginons que je choisisse donc les meilleurs grains de blé, parce que sinon ça serait vraiment du temps perdu. Et donc je choisis la meilleure semence, de toutes les meilleures semences, et je ne plante que ça. Et partout, je ne plante que le meilleur des meilleurs. J'ai donc optimisé. Et j'ai une rareté peut-être de choix, mais j'ai le meilleur. Et donc, ça veut dire que, évidemment, le parasite, dès qu'on va avoir un parasite, eh bien, l'intégralité de la récolte est foutue en l'air. Donc, ça veut dire que la durabilité d'un système totalement optimisé est égale à peu près à zéro. Contrairement à tout ce qu'on a appris dans notre culture depuis 300 ans. Donc, ça fait quand même depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années qu'on commence à comprendre que l'optimisation, oui, que l'optimisation, non, ça marche pas. Alors à l'inverse, je pourrais totalement diversifier. Je mets des tas de grains de blé partout, c'est totalement différent, je fais une abondance de choix, etc. Et puis il n'y en a même pas deux qui se croisent ensemble, et donc la durabilité de mon système est égale à peu près à zéro. En fait, ce que l'on a observé sur la nature, mais on l'a observé ailleurs aussi, on l'a observé dans les réseaux techniques, on l'a observé dans les réseaux humains, on l'a observé sur Internet, on l'a observé sur les monnaies même, on l'a observé sur plein de choses, c'est que l'endroit où vous arrivez à faire un système le plus durable, c'est pas celui qui est totalement optimisé, c'est pas celui qui est complètement diversifié, c'est celui qui est un peu entre les deux. En gros, il est à, allez, on va le dire comme ça, un tiers d'organisation et deux tiers de bordel. Et si vous n'avez pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, effectivement, on va pas gâcher, on va faire une seule solution, à condition qu'on soit suffisamment intelligent pour trouver la bonne solution. Donc, tout le présupposé qu'il y a derrière ce que tu dis, Thomas, dans les gens qui te disent, bah ouais, mais attends, on va multiplier les réponses s'il y a une abondance de personnes, etc. Ça présuppose un truc qui n'est pas dit, mais qui est important de dire, c'est que je suis suffisamment intelligent pour trouver la solution. Enfin, que la personne qui va être payée pour, à un moment donné, ou qui va travailler sur telle chose, va trouver la bonne solution. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que le monde est devenu complexe, est devenu plus complexe que ne peut l'englober un être humain. Et donc, cette solution qui est rationnelle, quand on entend cet argument qui t'est donné, Thomas, il est faux lorsque la complexité du monde dépasse la complexité de l'être humain. Alors, on n'aime pas dire ça parce qu'on n'a pas de limite. On est, en plus, le gars qui a fait des grandes écoles ou alors qui se retrouve à un lieu de responsabilité dans une collectivité, donc quelqu'un de très intelligent. Imaginons même que ça soit la personne la plus intelligente de cette planète. et qu'elle dépasse de très très loin même Einstein, d'abord parce qu'il est mort, et d'autre part parce qu'elle sera encore plus intelligente qu'Einstein, eh bien, ça ne suffira pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, on est obligé de ne pas savoir à l'avance quelle va être la bonne solution. Donc on va en avoir d'autres. Et donc cette abondance, eh bien, elle va nous servir à pouvoir avoir d'autres choses, qui pourraient a priori paraître plus bêtes. D'ailleurs, en fait, je vous conseille un petit texte que vous allez trouver sur mon blog, qui s'appelle « Éloge de la bêtise ». J'ai mon grand enjeu dans ma vie, j'ai un but dans la vie, c'est de donner des cours de bêtise à l'ENA. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La bêtise, c'est absolument pas l'inverse de l'intelligence, hein. La bêtise, c'est si imaginons que j'essaie de trouver une réponse. On me pose une question, je donne une réponse. Je vais donc donner la réponse la plus intelligente que je puisse donner. Si je suis très intelligent, je vais donner une réponse très intelligente. Et si je suis pas intelligent, je vais donner une réponse pas intelligente. Je vais essayer de vous le trouver effectivement en même temps. Donc, pendant que je parle, je fais de la bêtise. Voilà, ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir vous le donner. Il est là. Ah putain, il a été plus vite que moi, Thomas. imaginez maintenant que malgré ça, malgré que je sois le plus intelligent de la planète, eh bien, ma solution n'est pas assez intelligente pour avoir une bonne solution. Alors, je pourrais peut-être essayer d'avoir une autre solution. Le problème, c'est que par définition, la deuxième solution que je vais proposer, elle sera peut-être un peu moins intelligente que la plus intelligente d'avant. Elle sera un peu plus bête. Et puis peut-être une troisième. Et tout à fait par hasard, parce que je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être que c'est la deuxième ou la troisième ou la cinquième qui va être plus intéressante, qui va marcher mieux. Donc, ça veut dire que pour moi, la bêtise, c'est l'épaisseur de l'intelligence. C'est-à-dire que, en fait, c'est donner plusieurs solutions. Donc, je suis en train de gâcher du temps, puisque au lieu de trouver la meilleure solution, je trouve plusieurs solutions, dont plusieurs autres qui sont plus bêtes que ma plus intelligente. Et c'est absolument indispensable. Donc, premier argument sur l'abondance, l'abondance de choix est absolument indispensable quand la complexité du monde est supérieure à la plus grande intelligence que j'ai dans le groupe. Et malheureusement, ça arrive très souvent, parce que quand je veux inventer le monde de demain, quand je veux trouver des nouvelles solutions, quand je veux innover, quand je veux trouver des nouvelles opportunités, eh bien ça marche comme ça. Alors encore une fois, on n'est pas dans le monde de la contrainte, on est dans le monde de l'opportunité. Deuxième argument sur l'abondance, c'est une question de valeur. Pour l'instant, depuis le début de l'histoire de l'humanité, la plupart des choses qui avaient de la valeur étaient des choses rares. Les matières premières rares, le travail, les personnels est rare, donc ça coûte cher. L'information de bien rare, une information qui est cachée a plus d'informations qu'une information ouverte, etc., etc. Donc jusqu'à maintenant, la valeur, et donc le mot-clé et le mot valeur, était uniquement sur la rareté. Maintenant, il arrive qu'il existe de la valeur sur l'abondance. C'est-à-dire exactement, encore une fois, l'opposé. Alors, je vais vous donner un exemple, et ça s'appelle très exactement la loi de Metcalf. Metcalf, voilà, était le patron de 3M, je crois, donc des inventeurs aussi de l'Ethernet. Alors, il disait en gros ceci. Imaginez que on prenne un système comme de communication, d'échange, un système en réseau. Prenons le téléphone, par exemple, pour simplifier. Imaginez que sur cette planète, on vient d'inventer le téléphone, et je suis la seule personne sur cette planète à avoir le téléphone. À ce moment-là, eh bien, l'intérêt de ce téléphone-là est vraiment très relatif. Alors imaginez qu'avec l'un d'entre vous, nous soyons maintenant deux à avoir le téléphone. Alors l'utilité est bien plus grande, bien sûr, puisque on va pouvoir téléphoner tous les deux. Mais c'est tout. Et puis si on est trois, eh bien, ça fait déjà trois possibilités. Si on est quatre, ça fait six possibilités. Si on est cinq, etc., etc. Et en fait, ce que l'on observe, et ce que dit Metcalf, ce que dit Metcalf, c'est que en fait, la valeur du réseau téléphonique croît comme le carré des personnes qui sont dedans. Hein, et c'est pareil pour un réseau technique. D'Internet. Par exemple, si vous avez un réseau avec très peu de personnes, vous avez un réseau totalement dédié, par exemple, vous pouvez être sur Facebook. Facebook est peut-être plus intéressant que sur un système où vous avez que très peu de monde. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir que vos amis, mais vous n'avez pas forcément à avoir tout le monde. Alors, cette loi nous montre que dans certains cas de figure, l'abondance crée de la valeur. Alors, imaginons que j'ai besoin d'une information et d'une seule. Alors, à ce moment-là, si je la cache, j'ai peut-être une valeur que je vais pouvoir vendre très cher. Imaginons maintenant que dans un monde plus complexe, j'ai besoin d'un ensemble d'informations pour arriver à pouvoir faire des choix. Et que chacun d'entre nous a un bout d'information et qu'en plus on est mis un réseau entre nous. À ce moment-là, eh bien, la richesse, la valeur de mon information va être insuffisante pour pouvoir trouver des solutions. La valeur de notre information partagée va nous donner des avantages. Alors évidemment, derrière ça, il y a un troisième argument qui est imparable. Mais si on pousse chacun dans son retranchement, après avoir dit finalement il y a de la valeur dans l'abondance, et deuxièmement l'abondance est la seule solution pour gérer un monde trop complexe pour trouver la bonne solution à une seule personne, eh bien en fait la vraie question derrière c'est ouais mais alors, comment je contrôle, comment j'ai le pouvoir. Et donc en fait si on pose la question de l'abondance ou de la rareté uniquement par un système de pouvoir, parce que la rareté, enfin ou un système en étoile ou en hiérarchie, c'est quoi? C'est un système où tout se concentre avec un seul sommet et donc un seul pouvoir. Et donc à ce moment-là, soyons clairs, la vraie question de l'abondance, c'est la question de ah ouais mais est-ce que moi je veux garder le pouvoir et être maître du monde? Alors si une personne veut affirmer effectivement devant vous qu'elle veut être maître du monde, dans ce cas-là, effectivement, je n'ai pas d'argument pour lui dire et c'est mieux de coopérer. Effectivement. Mais à ce moment-là, assumons le fait que des arguments objectif, pas tout le temps, hein. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a la valeur dans la rareté. Hein. C'est tout le débat qu'il y a avec Wikileaks. Faut-il ou non donner des secrets d'État au risque de faire en sorte que certaines personnes, par exemple, puissent se retrouver en danger. C'est un vrai débat, c'est très complexe. Est-ce que la valeur, est-ce qu'il faut tout partager, etc. Je vous avais donné un exemple où il fallait pas coopérer parce que la valeur de la vie humaine était rare et précieuse. Par exemple, s'il fallait faire un système coopératif pour envoyer un homme sur la Lune, eh bien j'enverrais sans fusée et j'enverrais lequel est arrivé à la fin. Et c'est effectivement une mauvaise idée. Donc il y a des cas de figure où c'est pas juste, mais lorsque le monde est complexe, exemple, je veux inventer des choses nouvelles qui n'ont pas encore été inventées. Inventer des choses anciennes, ça c'est facile. Mais inventer des choses nouvelles, ça c'est une première chose. Dans ce cas-là, l'abondance est nécessaire. Deuxième chose, lorsque... la valeur est dans l'abondance, c'est-à-dire que lorsqu'on est, la valeur est dans le lien plutôt que dans la personne, et que et typiquement le téléphone, typiquement les réseaux humains, typiquement les choses comme ça, sur un territoire, eh bien, inventer des choses, ça c'est pas une seule personne, c'est plusieurs, eh bien, à ce moment-là, on a la loi de Metcalf, et donc la valeur, elle est dans l'abondance. Troisièmement, si ça empêchera la personne que vous avez en face de vous de devenir maître du monde, et ben dans ce cas-là, ne coopérons pas et laissons-lui devenir maître du monde, mais j'ai peur qu'il ait un petit peu du mal parce que tous les gens qui ont essayé par le passé, ils n'ont jamais réussi à faire un empire pour 1000 ans. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres aspects sur l'abondance spécifique? Après on va parler de la prévisibilité. Hein.
Moi j'avais deux choses. La première chose c'était pour moi le lien entre abondance et bien commun, parce que on le sent poindre, et comme c'était une question qui avait été posée, est-ce que derrière cette idée d'abondance on peut argumenter un peu plus sur de l'intérêt du bien commun. Et moi une de mes manières d'argumenter l'idée de l'abondance et de la coopération, c'est notamment, enfin, j'utilise pas mal l'idée en débat philo des quasimondes. C'est-à-dire qu'à un moment, tu prends l'argument des personnes et tu le pousses un peu à son extrême. Et souvent, je leur dis, ben voilà, imagine que les personnes qui ont inventé l'alphabet ou qui ont inventé les mots, chaque mot inventé avait été copyrighté, aurait été artificiellement mis en rareté et qu'il faille que tu payes à chaque coup une petite somme pour pouvoir bénéficier, enfin pour pouvoir utiliser des mots ou des lettres. Eh bien, je pense que du coup, on serait même pas là en train de discuter aujourd'hui. Donc, et de bien montrer que justement cette idée, l'idée de coopération et l'idée de bien commun, c'est quand même le fonctionnement fondamental, assez objectivement, des liens humains. Et donc quand on explique ça, les personnes au bout d'un moment en conviennent et imaginent que c'est un fonctionnement possible. Parce que bien souvent, ce qui est compliqué pour eux, c'est d'imaginer que ce soit un fonctionnement en fait opérationnel.
Alors je suis d'accord, je suis. Non, je vous dis que les trois mots parce que c'est les trois qui les brevetaient, et effectivement, sinon je peux pas utiliser les autres. Non, c'est un très très bon exemple parce que effectivement, quand on pousse là-dedans, et effectivement l'argument du bien commun il est intéressant parce que en fait on voit quelle est la plus grande valeur. Est-ce que c'est une valeur partagée, c'est-à-dire additionner nos valeurs à tous, ou une valeur individuelle. Alors la question n'est pas si simple que ça, comme malgré tout, parce qu'on pourrait répondre, bien évidemment, le bien commun, c'est mieux. Mais effectivement, si on se repartage et qu'il y a des plus forts et que moi je suis plus faible, et puis que donc c'est la tragédie des biens communs de Harding, hein, qui est un texte que vous retrouverez aussi, je le cite dans mon bouquin, qui explique qu'en gros, lorsque vous avez un territoire, avant on prenait les vaches des gens du village, et on les mettait sur un territoire donné, et il fallait faire en sorte que tout le monde puisse faire brouter sa vache tranquillement. Alors, lorsque le village grossit, on a un problème, et Harding a expliqué que la coopération ne pourrait jamais marcher avec ce qu'il a appelé la tragédie du bien commun, et on va essayer de regarder ses arguments, et on va essayer de voir pourquoi il s'est trompé. Il dit, voilà, il n'y a que trois solutions possibles pour arriver à ce que j'utilise un champ, un commons, un bien commun, donc c'est vraiment les débuts de la réflexion de la théorie des biens communs, en fait, hein, pour, ça y est, on m'appelle en plus, pour arriver à avoir tout ça. Et donc, premier cas de figure, tout le monde fait brouter ses vaches n'importe comment, au mauvais moment, etc., etc. J'espère que le téléphone va s'arrêter parce que ça me déconcentre. Oui. Ça y est. Alors, donc tout le monde fait brouter ses vaches, et au bout d'un moment, bah, c'est un champ de boue, et puis on n'arrive pas, parce que en fait, tout le monde les fait brouter en même temps, on n'arrive pas à réguler, etc. Première solution, le champ de boue. Donc, ça marche pas du tout. Deuxième solution, le pouvoir coercitif. Il y a le chef de village, il décide, toi, tu feras brouter tes vaches tel jour. Toi, tu as trois vaches, tu n'as pas le droit d'en avoir une quatrième, parce que sinon, ça va foutre le bazar. C'est le pouvoir coercitif. Et le troisième solution que dit Harding, eh bien, c'est de la propriété individuelle, c'est-à-dire chacun a son champ et se débrouille avec ses vaches dans son champ. Alors on voit bien les deux solutions, et puis le champ de boue également, qui ont été proposées effectivement dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un système coercitif avec des États qui décident, et un système économique avec la propriété privée. Sauf qu'il y a une erreur quand même dans le raisonnement. Ce raisonnement n'est vrai que lorsque la taille total des champs est limité. Donc imaginez que maintenant cette taille ne soit plus limitée. L'argument donné par Harding ne tient plus. Et effectivement, à ce moment-là, on peut faire du bien commun. Alors qu'est-ce qui n'est pas limité? Eh bien, l'information, l'intelligence humaine, les nouvelles idées, les choses comme ça. Donc si vous voulez partager un gâteau, effectivement, si on essaie de coopérer, c'est pas très facile parce que ceux qui coopèrent pas vont mettre un immense bazar et le gâteau lui-même va devenir un champ de boue, ou alors quelqu'un va décider pour nous, ou alors on va dire chacun on en a la propriété d'un petit bout de gâteau. Sauf que la plupart des gens qui nous parlent de tas de choses, et ça a été le même débat quand on a parlé de la musique en ligne et des choses comme ça, nous font le parallèle avec des biens matériels. Donc les biens matériels étant le gâteau, étant la baguette de pain, c'est l'exemple qu'on donnait pour la musique, on nous a dit la musique c'est comme la baguette de pain, il ne faut pas la voler. Eh bien c'est un argument totalement faux, parce que l'information elle-même, elle n'est pas limitée. D'abord parce que quand je vous donne une information, je l'ai encore. Donc elle a déjà doublé, et même là elle a plus que doublé, puisqu'elle a été multipliée par, on est combien on est, elle a été multipliée par 10, par plus que 10, déjà. Donc, et si vous me rapportez de l'information, l'information sur l'information elle-même, ça ne fait pas deux informations puisqu'elles vont s'emboîter ensemble pour faire une troisième information bien plus intéressante parce que vous allez apporter des arguments. Donc, ça veut dire que l'argument du bien commun, il est souvent combattu avec des arguments qui datent du 19e siècle, c'est-à-dire qui datent de Harding. Et si vous comprenez que les biens immatériels, c'est-à-dire que sur quoi on coopère? Sur des idées qui peuvent faire avancer le monde, des idées qui peuvent faire avancer un territoire, des nouvelles suggestions, des nouvelles choses. Il ne s'agit pas de coopérer pour couper un gâteau, il s'agit de coopérer pour partager des informations. Et quand on partage l'information, je ne vous la donne pas, je vous la partage, donc je l'ai encore. Je la duplique en fait. Donc on est bien sur des arguments où là, on est sur certains biens qui sont abondants, des biens qu'on appelle, alors ce que les économistes appellent des biens non rivaux. Un bien rival, c'est un bien où je vous le donne, je ne l'ai plus. Donc, si je vous donne ma part de champ pour mes vaches, ou si je vous donne ma part de gâteau, je ne l'ai plus. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas très facile. D'ailleurs, si en plus vous faites le morceau de gâteau, vous l'avez plus non plus. Donc, le gâteau est un bien qui a tendance à devenir rare. Par contre, si je vous donne de l'information, et que cette information est donc dupliquée, que elle-même vous donnez de l'information, etc., elle a tendance à devenir abondante. Donc là, on génère de la valeur par la multiplication de l'information. Alors évidemment, on nous dit, ouais, mais il faut pas donner ça aux ennemis parce qu'ils vont faire des tas de choses. Résultat, en les donnant ni aux ennemis, ni aux amis, eh bien, ça veut dire que je reste tout seul avec mon information qui, rappelez-vous, est absolument insuffisante pour survivre dans un monde complexe. Donc, ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Donc, voilà pourquoi, sur l'abondance, eh bien, on a, est-ce que j'avais noté d'autres choses, des aspects vraiment qui font que on a besoin, de, dans certains cas de figure, et en particulier sur un monde où la valeur est dans l'information, de fabriquer de l'abondance. Ça va très loin, cette histoire-là, parce que même les objets matériels commence à changer de valeur. On commence à avoir, vous avez peut-être entendu parler des imprimantes 3D. C'est une imprimante, c'est un système qui dépose du plastique, par exemple, ou d'autres choses, couche par couche, pour fabriquer n'importe quel objet. Donc je vais récupérer un fichier qui me donne, un peu comme un fichier, mais qui va donner des informations en 3 dimensions plutôt qu'en 2 dimensions, et que je vais imprimer sous forme de plastique, ou même de céramique, pour faire des moules, ou de choses, ou de chocolat, puisqu'on fait aussi des imprimantes 3D en chocolat, ou ce que vous voulez. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur, elle est plus dans l'objet. La valeur, elle est dans la description de l'objet. Et là, il s'est passé un truc absolument faramineux. C'est-à-dire que là où avant, un objet avait une valeur en soi, vous pouvez me voler mon objet, et moi je ne l'ai plus. Mais si je vous donne l'information pour faire l'objet, moi je peux toujours le faire, du moment que j'ai mon imprimante 3D. Donc vous voyez que même dans le monde matériel, on commence à avoir des choses qui elles-mêmes ont une valeur par l'abondance, alors que culturellement, tout avait été normalement de la valeur par le secret. Et même l'information était de la valeur par la rareté, donc par le secret. Et aujourd'hui, on voit que la valeur est par l'abondance. Il y a des secrets, bien sûr, dans certains cas de figure, mais d'un côté, on a les gens qui essaient de garder les secrets, et si tout autour de vous, vous avez plein de gens qui, eux, partagent leur propre information, eh bien, ils vont créer plus de valeur que la valeur que vous vous gardez dans votre coffre secret. Donc, ça veut dire que sur l'information, ça a basculé. Sur la musique aussi, avant, on vous vendait un bout de plastique ou un bout de vinyle, et maintenant, eh bien, on vous vend plus d'un bout de plastique, on vous vend de la musique. Et cette musique, encore une fois, c'est un bien non rival, et donc elle a tendance à devenir abondante. Elle ne se donne pas, elle se duplique. Et pareil pour même pour les objets matériels. Donc voilà ce qui est en train d'arriver. Donc ça veut dire qu'on est en train de passer d'un monde où pratiquement toute la valeur était dans la rareté, y compris au moment de l'information, à un monde où je peux communiquer avec tout le monde. Il y a quand même 5 milliards de téléphones mobiles sur cette planète pour 7 milliards d'habitants. Je sais pas, enfin de téléphones en tout. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. 5 milliards. Et les gens qui n'ont pas de téléphone, je peux les appeler quand même parce que j'ai toujours trouvé quelqu'un à côté d'eux qui avait un téléphone. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le réseau téléphonique me permet de joindre pratiquement la quasi-totalité des personnes sur cette planète. Donc ça veut dire que si à côté de ça je garde une information et que de l'autre côté j'ai un réseau de type internet, 2 milliards, excusez du peu, enfin 2 milliards ça veut dire que je touche quand même 5 ou 6 milliards d'habitants hein, quand même, puisque encore une fois je peux toucher des tas de gens qui n'ont pas internet par l'internet, par les supercafés, par plein de choses, c'est ce que je fais avec des Touaregs par exemple qui n'ont pas internet et avec lesquels j'arrête pas d'envoyer des mails. Donc vous voyez que ces réseaux là étant présents, l'information qui avait une valeur dans la rareté est aujourd'hui une valeur dans l'abondance. On voit bien aussi, regardez la recherche. Tout à l'heure, Laurent donnait un très bon exemple avec les lettres, mais regardez la recherche. Tout le monde a essayé de cacher les choses depuis qu'on a fait les revues à référer. Mais avant, eh bien, tout le monde partageait les informations de recherche, et on commence à le retrouver aujourd'hui. Eh bien, la vitesse de l'évolution de la science est incommensurablement plus grande lorsque l'on est dans le partage de l'information. Alors par contre, effectivement, culturellement, eh bien, ça veut dire que c'est un changement. Et donc, là où il y a de la valeur dans la rareté, il y a de la valeur dans l'abondance, et l'abondance, je ne sais pas, j'ai pas l'habitude, j'ai peur. Alors peur, ça me ramène au deuxième aspect. Ce deuxième aspect, c'est l'imprévisibilité. Alors, est-ce que le monde, il est prévisible ou imprévisible? Alors il y a des choses, bon, que je peux arriver à prévoir un petit peu, mais on voit que le monde est devenu plus complexe. Rappelez-vous cette petite phrase de que j'aime bien en fait de Ford qui a bien décrit l'imprévisibilité du monde. Il a dit je vous donnerai des voitures de la couleur que vous voulez à une seule condition, c'est qu'elles soient noires. Alors à l'époque de Ford qui d'ailleurs grâce à ça a pu faire des choses très très intéressantes, très coopératives comme des délais nazis, tout ça, enfin bon, des tas de petites choses, c'est un grand coopérateur. Eh bien il nous apprend un truc très intéressant. Il nous apprend que finalement, aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est plus vrai. C'est-à-dire que moi, si je veux une voiture rouge, eh bien, je vais aller à la concurrence parce que il n'y a pas de monopole. Il n'y a plus vraiment de monopole. Et donc, s'il n'y a plus de monopole, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais essayer de contraire de devoir avoir une abondance de couleurs. Donc, je suis incapable de prévoir la couleur de la voiture que vous voulez. Parce que vous, vous allez me dire que c'est rouge, mais demain vous allez l'acheter, vous la voudrez jaune. Donc de toute manière, vous-même, vous ne savez pas prévoir. Donc ça veut dire que j'ai deux solutions. Soit, parce que ça fait peur, hein, vraiment, l'imprévisibilité, c'est quelque chose qui fait très très peur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la fonction publique pour sortir de l'imprévisibilité. Parce que au moins, il n'y a plus d'imprévisibilité par rapport à l'emploi. On a un emploi à vie, on n'a plus la prévisibilité par rapport à ce qu'on fait, on fait des appels d'offres, et donc après, bon, ça foire, mais ça aussi, ça c'est prévisible, etc. Et donc, en fait, la vraie question de l'imprévisibilité, c'est que, en fait, même quand les choses sont imprévisibles, on préfère se casser la figure et les rendre prévisibles pour se rassurer. Donc, soit on accepte d'aller devant nos peurs pour gérer encore une fois notre monde, et si on veut trouver des solutions sur un territoire pour faire avancer les choses, que ce soit au niveau économique, au niveau associatif, à tous les niveaux, eh bien il va falloir aller dans l'imprévisibilité. Soit je vais essayer de rendre le monde simpliste et de rentrer dans mon truc totalement virtuel, et à ce moment-là, les autistes dont certains parlent en disant « Regardez ceux qui sont sur Internet, ils sont dans le virtuel, ils ne sont pas dans le monde réel », on a vu tout à l'heure que c'était faux. Mais par contre, ceux qui rentrent dans cette sorte de pseudo-monde virtuel, qui serait un monde totalement prévisible, où on croit que tout est comme ça et on fait comme si, là, eux, ils sont autistes. Eux, ils sont effectivement dans un système où finalement, ils ne savent plus communiquer avec le reste du monde, parce que justement, eh ben, ils se retrouvent à pas gérer l'imprévisibilité. Donc, en fait, les vraies personnes qui sont dans le virtuel, est-ce que c'est nous, alors qu'on est en train d'échanger entre des personnes, on est en train de dialoguer, de faire des choses, ou est-ce que c'est les gens qui sont dans une sorte de rêve d'un monde qui serait à leur image juste pour se rassurer? Qui sont les gens qui savent le moins bien communiquer avec les autres personnes dans le monde? Est-ce que c'est les gens qui sont sur Internet, ou les gens qui se leurrent en fabriquant un monde à leur image plutôt qu'un monde tel qu'il est? Et donc voilà les vraies questions qui se posent. Donc ça veut dire que derrière les vraies questions de l'abondance et de la prévisibilité, si je reprends la question de la coopération. La question de la coopération, on a vu que ça vient en deux, c'est qu'il y a premièrement quelque chose d'anticulturel, c'est l'abondance, et deuxièmement quelque chose d'anticulturel, c'est l'imprévisibilité. Et derrière ces deux questions-là, si je creuse et si je m'amuse à jouer au petit jeu de Laurent en creusant plein de trucs et en les exagérant complètement, et c'est un excellent exemple hein, de creuser les choses comme ça, eh bien, finalement, au bout d'un moment, j'arrive à quelque chose qui n'est plus rationnel, sauf si on considère que je fais de la rareté pour avoir du pouvoir, et je fais de la prévisibilité pour me rassurer, point final. Donc si le seul objectif n'est plus de faire des choses dans le monde, et de faire dans ce monde, mais de fabriquer un monde à mon image pour me rassurer, et d'en être le maître de ce monde, et de vivre dans mon autisme, à ce moment-là, effectivement, les arguments contre la coopération tiennent complètement. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire, et rappelez-vous ce que j'ai dit au début, que il faut donc supprimer les aspects de planification ou les aspects économiques. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut avoir la triple culture. Ou du moins, et donc il faut, ça veut dire qu'il faut avoir la culture de la rareté et de l'abondance, la culture de la prévisibilité et de l'imprévisibilité, et être capable, alors il y a des choses qu'on fait mieux que d'autres, bien sûr, mais d'accepter les trois approches qui sont l'approche économique, qui gère de la rareté de façon imprévisible, par un système un petit peu aveugle, puisqu'il régule les prix, il régule pas les richesses, donc il a des inconvénients, mais bon voilà, quand on ne sait pas faire autrement, on fait comme ça. C'est important de faire la planification, on l'a vu dans certains cas de figure, et c'est important de faire la coopération. Donc, l'argument ne doit pas être un argument de ou exclusif en disant « Non mais regardez, la coopération c'est bien, votre truc c'est moche ». Non, ça marche pas. On va faire des grandes discussions de café du commerce pendant des années comme ça. Non, il est de dire, nous avons absolument besoin d'avoir toutes les cultures. La culture qui vous manque la plus, c'est la culture de la coopération. Et c'est cette culture de la coopération qui aujourd'hui fait la valeur, parce que la valeur est dans l'innovation, elle est dans l'abondance, elle est dans les choses nouvelles. Alors vas-y Laurent.
Juste par rapport pour imaginer une déclinaison opérationnelle de ça, ben quand on a des personnes, je pense à Pascal par exemple avec ses projets de veille sanitaire, on voit bien que si tout est planifié, tout est contraint, ben on pourra pas imaginer des systèmes opérants si on suit ton raisonnement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer lancer plusieurs systèmes en parallèle, et un système, on va dire, officiel, et un système qu'on peut mettre à côté en disant, bah, ça, c'est un système de test, mais en imaginant bien que l'un va rassurer, on va dire, les tenants, pour la faire courte, du pouvoir, et l'autre, ou justement, qui va être plutôt une boîte à idées, et peut-être, espérons-le, une boîte à réussite.
Alors voilà, on est exactement maintenant dans l'étape, on a vu un peu la théorie avec ses aspects d'abondance et d'imprévisibilité. Maintenant, dans la pratique, effectivement, premièrement, on a besoin de, si vous réfléchissez pourquoi vous avez besoin de coopération quelque part, essayez de trouver un endroit où vous n'avez pas besoin de coopération. Ça va rassurer quand même. C'est-à-dire que vous avez besoin aussi de parler le langage de la personne qui a des problèmes à vous comprendre culturellement. Donc effectivement, sur quelle chose il faut coopérer, eh bien dites sur quelle chose il faut planifier, par exemple. Deuxièmement, vous pouvez éventuellement gérer les deux. C'est compliqué parce que vous avez pu voir que c'est quand même deux façons de gérer différemment. Donc la meilleure solution, ça serait quand même de dire aux gens, voilà, on a besoin des deux. On a besoin, par exemple, de gérer les problèmes de contraintes, parce que dans une commune, par exemple, eh bien, il ne faut pas que le but de foot s'effondre sur le gamin, et donc que ça soit bien planté dans le sol, que ça soit c'est contraint quand même, il faut faire attention pour pas qu'il y ait d'accident ou qu'il y en ait le minimum. Et donc voilà, ça, eh bien, il ne faut pas le faire comme ça. Et puis par contre, trouver des nouvelles opportunités, je ne sais plus l'exemple que tu citais, Laurent, là, mais là-dessus, eh bien trouver de nouvelles choses, ça par contre on peut le faire d'une façon différente, avec une méthodologie différente. Si vous utilisez le terme de méthodologie diversifiée, déjà peut-être que vos interlocuteurs comprendront mieux qu'il y a une méthode derrière. Si ils n'arrivent pas à comprendre que dans ce cas-là, vous pouvez vous occuper de l'un et puis que parce qu'il y en a d'autres qui s'occupent de l'autre, à ce moment-là, vous êtes obligé de tricher un peu dans le sens où on va dire bon voilà, on fait les deux. Et puis vous gérez un peu les deux. Alors c'est un peu plus emmerdant parce que, encore une fois, c'est pas facile pour vous. Et puis, si vraiment ça marche pas, eh bien, vous faites les deux, mais en n'en montrant qu'un seul. Et donc, ça m'est arrivé de temps en temps, dans des cas de figure, de dire, voilà, on va faire tel résultat. Ah, on n'a pas fait exprès, mais en plus du résultat, alors vous faites en sorte d'avoir un truc assez facile à obtenir, mais très contraint, très planifié, etc. Et donc, quand on me demande ce que je vais faire, je donne un résultat qui pourrait sembler très compliqué à obtenir, mais qui est en fait très simple. Donc, en fait, faut être un grand glandeur, un grand feignant, on a vu que c'était une des grandes qualités du coopérateur, pour arriver à dire aux gens, attendez, je vais vous faire ça. Et puis à côté de ça, à la fin, vous dites « Ah, on n'a pas fait exprès, mais on a trouvé des super idées aussi, puis on a pu les mettre en œuvre, regardez, on a fait ça, bon, c'est pas très très grave, mais voilà, vous nous excuserez, on a trouvé en plus des choses parce qu'on avait un peu de temps à perdre. » Alors, je vais vous donner un petit exemple concret. On m'a demandé d'animer un groupe de prospective en Franche-Comté. En Franche-Comté, avec des personnes qui n'étaient pas des prospectivistes, mais des chefs d'entreprise, des artistes, etc. Alors, ça m'a été demandé par une collectivité, avec sur le soutien de plusieurs collectivités, conseil régional, l'agence de développement urbain, enfin tous les trucs qui sont dans une culture de coopération fantastique et qui disent ah ben nous on a bien compris, donc on va faire un appel d'offres pour faire la coopération. Et donc j'ai répondu à cet appel d'offres. Alors la première réponse, quand même, je me suis amusé, j'ai dit voilà, comme les gens m'avaient déjà identifié, que je savais que vous n'allez pas me jeter complètement, j'aurais dit voilà, je vous propose de faire quelque chose, je sais pas quoi. Et donc j'ai répondu à mon appel d'offres à peu près comme ça. Alors là, ils étaient très embêtés, ils ont dit voilà, maintenant du coup on a fait une shortlist, il y en a deux parce qu'il y a toi et il y a les autres, parce que quand même ton truc là, on a peur parce qu'on sait pas, on va pas prévoir ce que tu fais. Bon, alors après je les ai rassurés, j'ai fait un autre document et je leur ai raconté ce que j'allais faire. Alors j'allais faire des réunions, j'allais faire des beaux dossiers de compte-rendu des réunions, et dedans il allait y avoir un plan d'action, enfin bref, des tas de termes absolument habituels, etc. et qui mangent pas de pain, donc ça c'est pas trop difficile à faire, ça me prend à chaque fois une heure pour faire un joli dossier, etc., etc. et ça rassure tout le monde. Et puis, on n'a pas fait exprès parce qu'à côté de ça, on a fait aussi des séances où on a mis dans un atelier d'artistes des chefs d'entreprise qui ont commencé à avoir des idées absolument géniales en mariant à la fois l'intellectuel et puis le côté émotionnel de l'artiste. Et résultat, on est en train d'arriver à des choses avec 5 points d'action, effectivement, mais pas du tout ce qu'ils avaient prévu et qui sont en train de changer complètement la Franche-Comté. Donc, vous voyez que il y a 3 façons de marier les deux aspects, donc d'avoir les deux chefs, comme on avait dit, soit d'avoir de considérer la technique de Michel Serres, la technique sur les bateaux, j'ai deux chefs, donc vous êtes le chef coopératif, et donc vous êtes là pour gérer les opportunités, et puis montrer à ce moment-là comment, dans d'autres domaines, on gère la contrainte, et qu'on a absolument besoin des deux. Si ça, ça ne marche pas, eh bien, intégrer les deux, et puis essayer d'être schizophrène, d'être les deux chefs en même temps, c'est plus difficile, c'est vrai. Et puis si vraiment ça marche pas, eh bien, cacher la partie coopérative derrière une grosse couche. Et si vous avez un peu l'habitude des consultants, vous savez, un consultant, c'est quelqu'un qui gagne sa vie, je vais dire ça, je ne vais pas dire ça, parce que en théorie, j'ai le titre de consultant, donc je suis en train de cracher dans la soupe, mais à faire des beaux rapports qui rassurent complètement d'ailleurs les personnes, et qui sont donc très faciles à faire. C'est-à-dire que moi, je vous chie de la ligne, et puis s'il faut dans la matinée 40 pages pour justifier la plantation des artichauts au Tibet, je vous fais ça parfaitement. Donc un petit peu de technique pour faire ça, ça va rassurer. Alors mettez que dedans il y aura un grand plan d'action, etc. Si ça foire, ça sera pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un truc planifié foire, c'est pas très grave, mais ça rassurera tout le monde, parce que ça aura foiré de façon correcte, c'est-à-dire de façon prévisible. Mais en même temps, eh bien, à côté de ça, laissez-vous la place et l'espace effectivement de faire d'autres choses. Alors évidemment, la meilleure solution, c'est quand même de faire comprendre que vous pourriez mettre 100% de votre énergie sur la coopération, parce que justement il y a des gens qui mettent 100% de leur énergie sur la gestion de la contrainte et la planification, et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc ça serait la meilleure solution, évidemment. Est-ce que sur cet aspect de coopération en milieu contraint, ça répond à vos questions? Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous avez des questions, des suggestions? Est-ce que ça vous fait penser à des idées? Est-ce que vous avez des insultes? Bref, est-ce que vous avez des réactions? À part le petit sourire de Pascal qu'il a mis dans le vote, là, donc c'est mignon, voilà. Puis il aura aussi d'ailleurs qu'il a l'air éclaté de rire. C'est bien parce qu'il a sur la petite photo, il a la même tronche que le petit smiley d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez des Carole aussi? Est-ce que vous avez des réactions, des idées, des questions? Oui.
Oui, alors ben merci Jean-Michel. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en système contraint, effectivement, ça demande de tenir son chemin quand on veut faire de la coopération, et que ça demande une certaine force, et de pas être aussi trop isolé, c'est-à-dire de pas se retrouver tout seul à essayer de travailler en coopération. Donc voilà, c'était juste pour dire que ben, c'est bien que les formations Outils Réseau existent, notamment pour ça.
Oui, et c'est vrai que de ne pas être tout seul, c'est un élément important. Je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est que dans le petit groupe, alors dans le groupe de prospective numérique que j'ai monté en Franche-Comté, donc il y avait un groupe innovation, en gros les institutions, qui géraient la contrainte de gérer l'opportunité, si vous me passez l'expression, et puis le petit groupe de chefs d'entreprise, d'artistes, etc. Et l'avantage, c'est que au départ, on les a convaincus en disant qu'on allait faire un truc, que ça allait vachement bien, parce qu'on a déjà prévu que c'était vachement bien. Ils ont vu qu'on a fait complètement l'inverse de tout ce qui était prévu, et du coup, ce groupe-là est devenu le meilleur soutien, c'est-à-dire que je suis plus jamais tout seul. Même quand de temps en temps, il y a des peurs qui ressurgissent dans les institutions, eh bien, du coup, moi, j'ai plus rien à faire, parce que c'est les gens du groupe qui disent « Ah non, c'est génial, ça marche franchement bien », et quand en plus c'est les chefs d'entreprise qui font ça, que les collectivités sont justement le secteur économique qui était là pour développer les entreprises, ça facilite. Donc vous avez intérêt à avoir à pas être tout seul, et tu as absolument raison, dans deux cas de figure. À l'intérieur, donc prenez dans votre groupe aussi des personnes qui vous reposez de temps en temps, parce que vous aurez des personnes qui auront du mal à comprendre, mais c'est bien d'en avoir quelques-unes qui comprennent vite. Et puis à l'extérieur, et donc le club des amis des formations d'outils réseau est aussi un élément extrêmement précieux pour pas se sentir tout seul. Et donc non seulement dans la formation, mais on en a parlé déjà un peu avec Laurent après la formation, puisqu'il y a déjà une première session qui s'est passée à Brest, là c'est la deuxième session, et je pense que c'est intéressant d'être entre nous justement pour pouvoir partager ces choses-là. Et puis effectivement, sur la technique que je vous ai donnée, là c'est donc n'affrontez pas de façon frontale le choc des cultures, et si vous avez besoin de formation là-dessus, faites du judo. C'est aussi simple que ça. Hein, c'est ce qu'on apprend. Alors, est-ce que on a couvert à peu près le problème le plus complexe, hein, parce que les autres à côté, je dis pas que c'est de la gnognotte, mais vraiment le problème de marier les deux, on l'a vu, c'est quand même assez complexe, c'est pour ça que je suis vraiment rentré dans les détails très très précisément. J'ai pas le temps de voir s'il y a des notes. Oui, il y a des petites notes qui ont été notées dans tous les sens, c'est super. Donc est-ce que ça couvre la besoin, est-ce qu'on peut passer au point d'après?
Juste par rapport à ça, effectivement, le fait d'être à plusieurs et d'avoir des exemples de collègues qui ont réussi à faire un peu du karaté mental auprès de nos institutions qui sont des fois un petit peu un petit peu coincé et d'avoir des bases de données d'ils l'ont fait, c'est possible. Je pense que c'est vraiment super important quand on montre des bons exemples de choses qu'on puisse se faire. Je sais pas, nous on utilise beaucoup Brest ou beaucoup de enfin, et à chaque coup qu'on va dans des rencontres nationales, on augmente notre petite liste des ils l'ont fait, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment super important. Et l'autre élément, c'est et je suis peut-être un petit peu lourd avec ça, mais c'est ces fameuses petites expériences irréversibles de coopération, et d'avoir dans des groupes des actions qu'on peut lancer et qui très rapidement vont montrer qu'on peut, si chacun fait un tout petit peu, c'est ce que j'appelle les chantiers chinois, réaliser du bien commun avec assez peu de moyens. Et ça, souvent les gens sont absolument bluffés par ça. L'exemple de ça, pour moi un des plus aboutis, c'est le questionnaire qui était passé lors du colloque science citoyenneté de Tela Botanica. Un questionnaire pour demander aux gens de préciser un peu leur projet, et avec ces questionnaires-là, ils ont fait un bouquin, enfin un petit fascicule qui est vraiment super intéressant. Eux-mêmes ont été surpris du bien commun qu'ils ont pu fabriquer, et tous les gens qui s'y retrouvaient ont dit là déjà, même avant le colloque, on voit que ça va fonctionner. Et donc je pense que ces petites expériences-là sont souvent des plus intéressantes.
Oui, alors sur la partie d'expérience irréversible, qui était vraiment un apport de Laurent qui me semble vraiment fondamental, je pense que ça serait même vraiment très intéressant d'avoir une sorte de base des petites expériences irréversibles, c'est-à-dire d'exemples. Alors ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir les copier directement, mais ça va vous inspirer pour en trouver d'autres. Alors j'en profite pour faire un tout petit peu d'autopromo, puisque je vais aussi, à partir de 2011, lancer une nouvelle plateforme internationale qui s'appelle Imagination for People. Donc l'imagination des personnes, ou l'imagination citoyenne. Et l'idée, c'est de faire une sorte de Wikipédia des bonnes idées qui permettent de mieux vivre ensemble. Donc c'est souvent des idées coopératives, comme vous l'avez deviné. Et donc on est exactement dans ça, c'est-à-dire pouvoir montrer des tas de choses. Alors il y a des exemples absolument impossibles. Tout le monde va vous démontrer, tous les technocrates vont vous démontrer que c'est impossible. Et puis il y a plein de gens, ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Et donc il y a plein d'exemples comme ça dans le monde qui sont absolument hallucinants, dans plein de domaines, dans le vieillissement, dans la biologie, dans l'architecture, dans des domaines extrêmement variés. Et donc on va présenter ça. Je pense que la plateforme devrait être en ligne fin janvier, début février. Et ça sera aussi un moyen d'aider les innovateurs sociaux, c'est-à-dire les personnes qui veulent, de façon coopérative, travailler à faire des nouvelles innovations, des nouvelles idées, les pousser pour pouvoir les aider justement sur cette plateforme également.
C'est Wikipédia qui m'a fait penser à ça. Dans les petits outils que j'utilise aussi pour dire aux gens qu'il est possible de fonctionner différemment et notamment de coopérer, c'est de dire que le projet Wikipédia, on l'a passé à des gens de l'ex-ANVAR, donc l'Agence nationale de la valorisation de la recherche, et quand on leur a présenté le projet, donc ils savaient que c'était Wikipédia, mais on leur a demandé de faire comme si c'était un nouveau projet qui leur a été soumis. Le projet a été retoqué parce qu'il était irréalisable, et que eux démontraient par A plus B que ce projet ne fonctionnerait pas. Et donc le fait de voir que nos systèmes de validation habituels programmatiques des projets ne sont pas capables de comprendre et d'intégrer ces manières de fonctionner là.
Voilà, ça donne une idée assez intéressante. Vous avez un projet, vous voulez convaincre les collectivités, et que évidemment votre projet il va marcher, et eux ils ont déjà prévu que ça ne marchera pas. Alors là, une des façons de faire, c'est essayer de chercher, l'avantage qu'on a sur internet énormément de choses, des exemples qui ressemblent à votre projet. S'il y a des choses nouvelles dans votre projet, en plus de ce projet-là, les présentez pas tout de suite. On est dans la partie où on présentait plutôt la partie rassurante là-dedans, et vous dites non, finalement on fait quelque chose de déjà qui a déjà été fait ailleurs. Et donc plutôt que d'essayer, vous avez envie de faire des choses nouvelles, et vous avez absolument raison. Par contre, pour convaincre les gens qui ont besoin d'être rassurés et qui ont peur, eh bien présentez ça comme des choses anciennes. Donc trouvez des projets qui ont déjà fait ça, y compris dans les projets innovants, hein. Et Wikipédia, l'exemple de Laurent, est un très bon exemple, parce que c'est un projet absolument impossible, donc il a réussi. Donc comme ça permet de convaincre que effectivement c'est possible, premièrement, par les faits. Et puis si vous oubliez deux, trois choses sur lesquelles vous n'avez pas trouvé d'équivalent là-dedans, pour ces personnes-là, c'est pas si grave que ça. L'élément le plus important à retenir, c'est un proverbe danois qui dit on est plus facilement pardonné que d'avoir l'autorisation. Donc si vous voulez avoir l'autorisation de l'ANVAR ou de votre collectivité territoriale, eh bien demandez pas l'autorisation, faites-vous pardonner à posteriori. Si vous réussissez, c'est pas si grave que ça. Si vous réussissez pas, eh bien ils ne sauront même pas que vous avez raté puisque vous n'avez pas parlé de cette partie-là. Par contre, présentez bien, et c'est important, je crois, effectivement, première chose à faire dans votre projet, montrez que vous n'êtes pas tout seul, que ça a déjà marché ailleurs. Et si vous en trouvez plusieurs, vous allez gagner, effectivement.